Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième journée d'études consacrée à l'éducation, aux médias et à l'information. Après les interventions que nous allons suivre ce matin, nous travaillerons en atelier cet après-midi au troisième niveau des espaces de la BPI. Pour cela, je vous prie de bien vouloir nous rejoindre à 14h15 à l'entrée publique de la BPI, située rue Beaubourg, à l'arrière du Centre Pompidou. Nous allons dès à présent suivre les interventions de nos invités, en commençant par M. Loïc Blondiau, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais membre de la Commission nationale du débat public. Nous entendrons ensuite Mme Clara Schmelk, journaliste et autrice, chargée de cours à Sciences Po Strasbourg. Nous terminerons par l'intervention de Mme Valérie Lallemand, directrice de recherche à l'INSERM et membre du bureau de l'association L'Arbre des connaissances. Il y aura un court temps d'échange avec la salle entre chaque intervention, puis une possibilité d'échanger un peu plus longuement à l'issue des trois interventions. Je vous remercie et je passe la parole à M. Loïc Blondiau.
Si vous m'autorisez à enlever le masque, bonjour à toutes et à tous. Alors, si j'ai été invité ce matin à vous parler, c'est très vraisemblablement parce que je travaille sur les questions de démocratie, de transformation des démocraties contemporaines pour le pire et pour le meilleur. Le pire, nous l'observons aujourd'hui dans la montée de la menace fasciste dans nos sociétés. Pour le meilleur, dans le processus qui est en train de voir le jour, de renouvellement de nos formes démocratiques et de nos institutions. Alors, je suis membre de la Commission nationale du débat public, mais j'ai été aussi, et ça va compter pour mon intervention, membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, et j'ai accompagné différentes expériences d'associations des citoyens au processus de décision, plus ou moins concluantes, plus ou moins effectives dans le pouvoir d'influence des citoyens, mais qui ont tenté, en tout cas, de restaurer une forme de confiance et de collaboration entre les pouvoirs et les citoyens. Alors, le titre de mon intervention, c'est « Démocratie et expertise sont-elles compatibles ? Les enjeux de la défiance contemporaine à l'égard des institutions ». Je vais procéder en trois temps. Je vais voir d'où nous venons dans ces relations entre démocratie et expertise, voir où nous en sommes, comment finalement les frontières aujourd'hui se brouillent, comment se cristallise une véritable défiance entre les citoyens, les experts, et les représentants, et essayer d'explorer quelques pistes de changement, de transformation, de réforme possible. Alors d'abord, on va, comme d'habitude, en tout cas en ce qui me concerne, essayer de définir ce dont on parle et revenir alors donc sur l'idéal démocratique très rapidement, en quelques mots. La démocratie, c'est donc un idéal, ça n'est pas du tout une réalité, et c'est un idéal polymorphe qui peut inclure trois dimensions. Il y a la dimension de souveraineté du peuple, d'autogouvernement du peuple. C'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est vraiment l'idéal d'origine. Il y a un deuxième idéal qui est venu se greffer sur ce premier dans nos sociétés, qui est l'état de droit, c'est-à-dire un idéal de protection, de respect des libertés qui, selon nous, en tout cas dans nos sociétés, conditionne l'exercice du pouvoir du peuple sur lui-même. Et puis, il y a un troisième idéal qui compte énormément pour moi, qui est la démocratie comme forme de vie, comme expérience, comme état social, disait Tocqueville. C'est-à-dire dans nos relations ordinaires, partout ailleurs que dans la sphère politique, nous considérons-nous comme des égaux, nous comportons nous comme des démocrates, c'est-à-dire en acceptant effectivement que l'autre puisse avoir raison, etc., etc. Voilà pour l'idéal démocratique. Maintenant, venons-en à l'expertise qui nous intéresse ici et maintenant dans cette... Alors, il y a deux... Finalement, si on regarde les dictionnaires, l'étymologie de cette notion, il y a deux grandes familles de sens associées à l'idée d'expertise. Il y a la première famille qui s'est imposée, l'expert, c'est le spécialiste. C'est celui qui, une personne choisie pour ses connaissances techniques, est chargée de faire en vue de la solution d'un procès, des examens, ou technicien spécialiste d'un domaine chargé d'étudier et d'évaluer les faits qui lui sont soumis, chargé de résoudre un problème technique. C'est cette définition, me semble-t-il, qui prédomine. Et puis, il y a une deuxième définition qui est la définition première. L'expert, c'est celui qui a acquis par l'expérience, par la pratique, une habileté, hein, et qui autorise à dire, d'un certain point de vue, que nous sommes tous experts de quelque chose, et en tout cas experts de notre propre vie. Hein, et il y a cette seconde dimension expérientielle de l'expertise qui me paraît d'une importance considérable lorsqu'on raisonne aujourd'hui sur la démocratie et l'attitude des citoyens à l'égard des institutions et des experts. Alors d'où venons-nous ? Alors évidemment, on ne peut pas ne pas faire le détour et revenir aux origines de la démocratie, ce sera très rapide, ce sont des choses effectivement bien connues. Dès l'Athènes démocratique, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a deux positions qui s'installent et qui ne changeront plus d'un certain point de vue. Il y a la position élitiste d'un Platon qui nous dit finalement la démocratie est une chose très sérieuse, en tout cas la politique est une chose trop sérieuse pour être laissée aux citoyens. Il faut la confier à des experts qui ont un accès aux idées et qui ne sont pas travaillés par leurs émotions. Hein. Et donc cette position élitiste, cette position, il me semble qu'elle continue d'être portée dans la pensée politique, dans l'espace public, et elle introduit une forme de défiance vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la démocratie. Et puis l'autre position qu'on peut attribuer à Aristote, et voilà, qui nous dit, bon, la démocratie, c'est ce régime où tout le monde peut être gouverné et gouvernant, c'est ce régime qui n'exige pas un savoir particulier, mais de la prudence, c'est-à-dire une forme de jugement adaptée aux circonstances, et donc il récuse finalement la position, la division du travail d'un Platon. Et puis vous avez plus généralement, il y a des travaux très récents et tout à fait importants sur ce point, nous savons que les Athéniens se méfiaient des experts. Et qu'ont-ils fait ? Ils ont confié les tâches d'administration de la cité à des esclaves. C'est ce que montre, par exemple, le travail de Paulin Ismar, qui s'intitule « La démocratie contre les experts », parce qu'on était sûr que si on les confiait à des esclaves, ces experts ne prendraient pas trop d'ascendant sur le peuple et la démocratie. Deuxième moment, très rapide, de ce bref historique, la Révolution française. La Révolution française s'exprime une défiance, cette fois-ci caractérisée vis-à-vis du peuple, alors même qu'on lui reconnaît la souveraineté. C'est ça le grand paradoxe. Hein, c'est finalement ce peuple finalement qui est souverain, qui a remplacé Dieu et le monarque. Ce peuple, il est hors de question de lui confier le pouvoir en pratique. Et donc on va inventer une formule de compromis qui est le gouvernement représentatif dans lequel le peuple se contente de désigner des représentants et pour le reste dans une position très, très secondaire et très passive dans l'architecture des pouvoirs. Donc défiance institutionnalisée vis-à-vis des citoyens et délégation du pouvoir à des experts de la politique, à des experts. Ce régime va se révéler extrêmement robuste, hein, il va résister à des tas d'épreuves et puis il va aboutir à ce que sont nos démocraties représentatives, c'est-à-dire une alliance entre la représentation et l'expertise, ce que Bruno Latour appelle une forme de grand partage. Les experts ont fini par revendiquer avec succès le monopole la connaissance des choses, hein, des techniques, de la réalité. Les représentants revendiquent le monopole du processus de décision. Grand partage qui fonctionne très bien avec un État qui organise les relations entre les experts et les citoyens. On aboutit à une professionnalisation de l'activité politique. on aboutit à ce que certains ont pu appeler une démocratie du diplôme. Il y a un best-seller international qui s'appelle Diploma Democracy, qui montre qu'effectivement, dans cette démocratie, ceux qui ont le pouvoir partout, ce sont ceux qui ont acquis finalement ces qualifications, qui se sont spécialisés dans un certain nombre de savoirs. On a finalement abouti à des formes qui sont à mi-chemin entre la démocratie et l'épistocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux experts. Lorsque, par exemple, au moment du traité constitutionnel européen, finalement le peuple se prononce, on juge qu'il n'était pas assez compétent pour le faire et on applique la fameuse phrase de Brecht, quand le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. Donc on est dans cette problématique-là. Et des citoyens réduits dans une position de consommation, de passivité, de manière très générale. C'est-à-dire que le système capitaliste, par ailleurs, encourage la passivité des citoyens, qui sont pensés comme des consommateurs, des travailleurs, mais pas du tout comme des citoyens. Il y a un processus d'infantilisation des citoyens. Très, très bon travail de Benjamin Barber là-dessus. Deuxième point, où nous en sommes aujourd'hui. Tout a changé depuis maintenant plusieurs décennies. Il y a d'abord une contestation de la représentation, une contestation de plus en plus radicale du principe même de la représentation, de la fiction même de la représentation. C'est-à-dire qu'il n'est plus accepté, ou en tout cas de moins en moins accepté, que quelqu'un parle en mon nom alors qu'il ne connaît pas la réalité de ce que je suis. Donc on est passé d'un état où les gens disaient « vous ne nous représentez pas, vous ne nous représentez pas fidèlement, vous ne nous représentez pas bien » à « nous ne sommes plus représentables ». Et c'est la caractéristique de tous les mouvements sociaux contemporains, des indignés, Nuit debout, les Gilets jaunes, etc., que de refuser le principe de la représentation, avec un vrai problème pour nos démocraties qui repose sur cette fiction. Sans cette fiction, elle ne fonctionne plus. Et puis, il y a une contestation de l'expertise. Mais ça, ça ne date pas d'hier. Souvenez-vous des années 70, la critique radicale de la science et de la technologie, qui était portée par des gens comme Ivan Illich, qui a un peu reflué et qui réapparaît aujourd'hui. Il y a sur des tas de domaines un retour de cette critique radicale. Il y a une montée des conflits autour de sujets qui, finalement, nécessitent, pour les comprendre et pour décider, un minimum d'expertise. Et cette montée de la conflictualité, quand on travaille sur les mouvements sociaux, quand on travaille sur la démocratie, on la voit. Les experts ne peuvent plus utiliser le discours d'autorité. Ça, c'est un point absolument capital. Au risque de s'exposer soit à une critique de citoyens qui connaissent souvent presque aussi bien... Alors, je ne parle pas des savants, de ceux qui produisent la science, mais de ceux qui utilisent la science, qui connaissent presque aussi bien la science qu'eux. C'est une problématique récurrente dans les débats publics que d'avoir des formes de contre-expertise ou de citoyens qui leur disent « vous n'avez pas étudié les bons aspects de la réalité. Il y a des tas de points aveugles dans votre raisonnement ». Il y a eu l'impact des scandales, souvenez-vous, des scandales amiantes, sans contaminer, etc., qui ont jeté un doute légitime sur les influences qui pèsent sur les experts. Il y a finalement une critique en acte qui est liée aussi à l'élévation du niveau d'éducation dans nos sociétés. Certes, tout le monde n'est pas impliqué dans ces mobilisations, dans ces mouvements sociaux. Tout le monde ne s'intéresse pas à la politique. Mais la partie qui s'y intéresse est de plus en plus revendicative et ne comprend plus qu'on la mette à l'écart. Cette critique, elle se diffuse très largement, et je pense qu'il en sera question amplement par la suite. Le rôle des réseaux sociaux joue un rôle considérable, d'un certain point de vue, produit des biais, surfe sur des biais cognitifs qui sont bien connus. Vous connaissez les travaux de Gérald Bronner sur la démocratie des crédules, dont je ne partage pas du tout la critique qu'il en tire finalement de l'espace numérique et un peu plus loin de la démocratie elle-même, mais néanmoins, il a raison sur de nombreux aspects, ces biais cognitifs, ces biais de confirmation qui sont exacerbés par les logiques de fonctionnement même des réseaux sociaux qui encouragent ce qu'on appelle les bulles de filtre, hein, qui, d'un certain point de vue, nous enquistent dans des communautés de croyances qui sont infiniment problématiques pour le débat politique. Et je voudrais pointer aussi la responsabilité de nos élites. Trois types de responsabilités. On a, d'un certain point de vue, des médias, les élites médiatiques qui, pour des raisons aussi marchandes, pratiquent la pseudo-objectivité, c'est-à-dire des formes de pseudo-controverses qui, d'un certain point de vue, mettent à égalité des gens dont les savoirs ne sont absolument pas de même valeur, de même nature. Responsabilité des politiques, très clairement. Alors, allons vers Trump, vers Bolsonaro. Il y a une délégitimation de la science, la revendication de faits alternatifs, le combat contre l'université. Et ça n'est pas un hasard si un des candidats à la présidentielle a mis les intellectuels, mis les sociologues avec les médias dans la liste de ses adversaires, dans sa déclaration de candidature. Il y a un enjeu majeur derrière cette disqualification finalement des savoirs savants. Troisième élément, l'affaiblissement de l'expertise publique. Très clairement, le sous-financement de la recherche publique fait que dans des tas de domaines, finalement, il n'y a plus cette base de connaissances qui est absolument nécessaire au débat démocratique. Et on est obligé de s'appuyer sur des savoirs qui sont produits par des acteurs privés. C'est toute la problématique des agences autour des questions environnementales. Alors, face à cela, cette défiance, il faut la relativiser. Les scientifiques, en général, ne sont pas les plus mal lotis quand on regarde les sondages qui portent sur l'image de la science. Tout n'est pas perdu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas revenir à un modèle de décision qui repose sur ce que Michel Calon appelle l'instruction publique. C'est-à-dire, grosso modo, les savants et les pouvoirs font leur boulot et tout est question désormais de pédagogie. C'est-à-dire, il suffit de l'expliquer aux citoyens et ils finiront par comprendre ce qu'on leur explique. Et puis, on sait aujourd'hui que dans le domaine des savoirs, des techniques, des sciences, alors qui est le domaine que je connais le mieux, hein, je fais partie par ailleurs du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, qui connaît en ce moment un certain nombre de vicissitudes. Mais nous avons publié un livre collectif, ce conseil scientifique, hein, composé de gens des sciences dures et de quelques chercheurs de sciences sociales. Nous avons publié un livre l'année dernière, chez Odile Jacob, sur la science pour le futur, la science pour l'avenir, et dans lequel nous développons ces éléments. Il y a eu beaucoup de pseudo-participation et pendant ce temps-là, finalement, l'emprise des intérêts industriels sur les processus de production des connaissances ont continué. Alors, que faire ? Alors, j'imagine que vous m'attendez évidemment sur ce dossier-là. Que faire du point de vue du politiste, hein, de celui qui réfléchit à la transformation possible des institutions et de la démocratie ? Premier geste à accomplir, me semble-t-il, revenir à la première définition de l'expertise. Revenir à la définition étymologique de l'expertise et reconnaître comme expertise l'expérience et les savoirs d'expérience, qu'on appelle l'expertise profane ou les savoirs profanes. Ne pas les mettre à égalité avec les savoirs savants, avec les savoirs dits sérieux, mais considérer qu'ils ont une valeur. Et le plus souvent, ils viennent compléter finalement l'image du monde que l'on peut se faire à partir des seuls savoirs savants. Un des biais principaux me semble-t-il, du régime de connaissance qui est le nôtre, c'est qu'on valorise certains savoirs au détriment d'autres. On valorise, par exemple, les savoirs économiques par rapport à tous les autres savoirs. On valorise les savoirs techniques, les savoirs qui s'ancrent dans l'esthétique, dans un certain nombre d'émotions, dans une connaissance intime des réalités du terrain. Ces savoirs sont disqualifiés, dévalorisés, et on considère qu'ils ne sont pas légitimes. Donc il faut revenir sur ce grand partage, revenir sur cette hiérarchie des savoirs. Et en faisant mon petit travail étymologique pour cette conférence, j'ai consulté le dictionnaire culturel de la langue française, Robert et d'Alain Rey, et il dit... Et c'est tout à fait important. Il cite un texte de Gilbert Simondon, dont je ne suis pas un auteur familier, qui est un grand philosophe des techniques, et qui, dans son livre du mode d'existence des objets techniques, dit « Les paysans et les bergers sont experts au sens étymologique du terme. Ils ont part à la nature vivante de la chose qu'ils connaissent, et leur savoir est un savoir de participation profonde, directe, qui nécessite une symbiose originelle, comportant une espèce de fraternité avec un aspect du monde valorisé et qualifié. » Ça me paraît tout à fait important, c'est-à-dire que ça ne conduit pas à une forme de relativisation des savoirs. Il y a toujours des savoirs qui sont plus robustes, qui sont plus crédibles que d'autres. Il y a toujours des dispositifs de certification des savoirs qui doivent être reconnus, respectés. Il est hors de question de les mettre à égalité. Mais il est question, d'un certain point de vue, d'accueillir, me semble-t-il, d'autres formes de savoirs, de les reconnaître et de considérer qu'en matière politique, ils peuvent avoir une importance. Et d'autres collègues, j'ai consacré un livre collectif à la démocratie des émotions où, en fait, nous procédons à une forme de réhabilitation, néanmoins, des émotions dans le fonctionnement de nos sociétés. Et puis, il faut penser la démocratie donc comme expérience. Et là, revenir à John Dewey, qui est le grand philosophe de cet idéal de démocratie comme expérience qu'on est en train de lire, de relire, et c'est tout à fait important dans un pays comme la France qui l'a longtemps méconnu. John Dewey nous dit la compétence politique, elle s'exprime dans l'action. C'est un philosophe pragmatiste, et donc ce sont des citoyens qui collectivement mènent l'enquête, acquièrent des savoirs, débattent entre eux et identifient à la fois des problèmes et des solutions à ces problèmes. Et une fois que les solutions à ces problèmes sont trouvées, elles se transforment en institutions. Et donc, d'un certain point de vue, c'est comme ça que fonctionne la démocratie, sur des collectifs qui apprennent, qui enquêtent, qui débattent, qui essayent de trouver des solutions aux problèmes. C'est une conception très différente de notre vision de la démocratie avec un grand D, où il y a un État qui est censé, d'un certain point de vue, avec son omniscience, trouver toutes les solutions aux problèmes. Alors, les voies maintenant, et j'en terminerai par là, les pistes de réflexion. Il y a des pistes qui sont explorées ici et maintenant dans des tas d'expériences citoyennes, individuelles ou collectives. Il y a la piste de la réappropriation des savoirs, voire même de l'appropriation des savoirs. Si vous lisez un auteur dont on parle beaucoup, qui est Matthew Crawford et son éloge du carburateur, qui en appelle à ce que chacun d'entre nous, finalement, renonce à sa position de consommateur pour retrouver la maîtrise de certaines techniques et puisse finalement redevenir maître un petit peu de son quotidien. On retrouve un petit peu l'esprit de ce que disait quelqu'un comme Ivan Illich. Je vous conseille un remarquable livre qui est sorti le mois dernier de Geneviève Pruvot sur le quotidien politique. Et Geneviève Pruvot, elle nous dit ça. Elle nous dit, finalement, il y a des tas de citoyens qui reprennent le pouvoir savoir sur leur environnement immédiat, hein, sur ce qui les concerne d'un certain point de vue, et ne délèguent pas des dimensions essentielles de leur vie à des intermédiaires ou au marché ou à des acteurs, etc. Cette volonté de réappropriation, et Geneviève Pruvot est la même qui nous a parlé de politisation du moindre geste dans ses travaux sur les ZAD, en disant finalement ce qui compte dans les ZAD, c'est de savoir refaire une charpente, c'est d'apprendre à refaire une charpente, ça n'est pas de débattre. Et ce qui m'amène moi aussi quelquefois à parler de démocratie du faire. Nous avons concentré la démocratie sur le discours, sur la délibération, sur la parole. En fait, la démocratie, c'est aussi l'action, c'est aussi, et il y a une très grande disponibilité de beaucoup de citoyens pour la contribution, pour le faire ensemble, pour le faire démocratique, parce qu'il y a une déception, parce qu'il y a une désillusion vis-à-vis du fonctionnement des institutions traditionnelles. La deuxième voie, c'est celle que je pratique dans mon engagement d'universitaire et dans mon militantisme de la démocratie. C'est la voie de la démocratie délibérative, qui est autre chose d'un certain point de vue que la démocratie participative, qui repose purement et simplement sur de la communication. La démocratie délibérative, ça repose sur un idéal qui est que une décision ne peut être légitime que si tous ceux qui sont concernés par cette décision ont eu la possibilité de participer à sa construction. Hein, c'est un résumé. Hein. Une décision ne peut être légitime que si tous ceux qui sont concernés par cette décision ont pu participer à son élaboration. Ce qui ne veut pas dire de passer directement à la démocratie directe, mais c'est de concevoir, de construire autrement la décision. Un peu partout dans nos activités, ça ne vaut pas que pour le processus politique, mais ça veut dire que dans toutes nos organisations, d'un certain point de vue, nous devons suivre cette règle qui est d'associer tous ceux qui sont concernés au processus de décision. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre en place à la Convention citoyenne pour le climat, avec une fenêtre de possibilités qui était ouverte par le mouvement des Gilets jaunes, hein, et qui ne se retrouvera peut-être pas dans les années à venir, c'est-à-dire des moyens, du temps et une promesse qui finalement n'a pas été tenue d'influence du processus sur la décision. Et en 9 mois, avec 150 citoyens qui, pour beaucoup, sinon la quasi-totalité d'entre eux étaient jugés trop incompétents pour juger d'affaires aussi sérieuses que le changement climatique et l'avenir de nos sociétés, ont parfaitement été capables de se hisser à la hauteur des enjeux, bien mieux que des parlementaires élus, pour produire des contributions en surmontant leurs différences, hein, en essayant de trouver des consensus et en écartant. Par exemple, la taxe carbone a été mise de côté, alors que tout le monde considère que c'est la mesure la plus efficace pour décarboner nos sociétés, en écartant ce dont ils n'avaient pas envie. Et je pense que ça, c'est, d'un certain point de vue, le prototype ou l'exemple de ce que nous pourrions reproduire et de ce qu'il est tout à fait possible de reproduire dans des tas de lieux, dans des tas de circonstances, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans toutes ces organisations où la démocratie n'est pas présente. Hein, parce que d'un certain point de vue, nous avons une société qui est démocratique au niveau des institutions, paraît-il, hein, puisque nous avons tous le droit de vote, mais où il n'y a pas de démocratie ailleurs. Deux dernières pistes. Co-construire les savoirs, bien évidemment, alors aller bien au-delà de l'idéal de science participative qui transforme les citoyens en collecteurs de papillons. Hein. Bon, c'est déjà très bien, hein, mais en collecteurs de petits faits, c'est ça généralement la science participative. Mais faire de la recherche participative au sens fort du terme, c'est-à-dire en élaborant des protocoles de recherche, en reconnaissant aussi la place de chacun, le chercheur ayant à la fois ses propres questions et ses propres méthodologies, hein, de production des faits et des données, ça c'est possible. Et différentes expériences nous montrent que c'est possible. Il y a 2 ans, j'avais présidé, co-présidé un jury mis en place par la Fondation de France sur la recherche participative, et j'avais été frappé de voir à quel point dans le domaine de la maladie mentale ces recherches participatives pouvaient fonctionner, dans le domaine de l'agriculture, culture, dans tous les domaines, finalement, à condition, effectivement, qu'il y ait une volonté hein, des acteurs, il est possible de produire ça. Un mouvement comme ATD Quart Monde a développé depuis très longtemps des expériences de croisement des savoirs qui sont absolument passionnantes. Et puis, dernier aspect, et on en arrive toujours à ça, quand on est amené à réfléchir à la démocratie, développer les compétences démocratiques, c'est-à-dire renforcer les compétences démocratiques des citoyens. Et ça ne peut se faire, évidemment, que par la voie de l'éducation. Hein. C'est un peu toujours la dernière chance, hein, c'est de se dire l'éducation populaire qu'on a complètement méprisée, martyrisée et qui s'est complètement étiolée aujourd'hui dans nos sociétés, alors même qu'il jouait un rôle de socialisation absolument fondamental, de conscientisation. Et de manière très générale, l'un des éléments du constat qu'il faut rappeler, c'est que la disparition des corps intermédiaires, c'est-à-dire la disparition. Entendons-nous, il existe toujours des corps intermédiaires, il existe toujours des syndicats, il existe toujours des associations qui font ce lien entre les citoyens et le pouvoir. Mais leur affaiblissement, hein, qui est à la fois dû au fait que les citoyens s'en désintéressent, hein, parce qu'ils sont appelés par d'autres activités et s'en méfient, hein, toujours au nom de cette aversion à la représentation dont je vous ai parlé. Et puis, ils sont méprisés par en haut, hein, c'est-à-dire sous-financés, amenés à répondre à des projets plutôt qu'être financés sur leur propre finalité. Donc cet affaiblissement est d'une portée considérable pour nos démocraties. Parce que qu'avons-nous à la place ? Nous avons des plateformes. Nous avons des plateformes, nous avons les réseaux sociaux qui sont les canaux principaux de diffusion de l'information, de diffusion des connaissances et de socialisation des citoyens. Ça engendre quoi ? Ça engendre à la fois du n'importe quoi et ça engendre surtout de la violence hein, du citoyen face à son écran qui, lorsqu'il est persuadé qu'on lui ment, n'a plus aucune envie de respecter des règles qui lui paraissent totalement biaisées. Donc développer les compétences démocratiques, éducation populaire, école. Nous avons une école. Alors évidemment, je suis enseignant, donc je sais qu'on ne peut pas tout faire reporter sur l'école. Elle ne peut pas porter sur ses épaules tout le poids du monde. Mais si l'école continue à pratiquer le type de pédagogie autoritaire hein, qu'elle pratique et que récuse d'un certain point de vue les adversaires de ce qu'on a appelé le pédagogisme. Moi, je crois à tout l'inverse. Quand elle contribuera à ce point à l'individualisation de nos sociétés, à des formes de compétences qui ne sont pas les compétences du citoyen. C'est-à-dire, les compétences du citoyen, c'est quoi ? Travailler en collectif, imaginer. Hein, imaginez ce que pourrait être un monde différent, écouter l'autre, apprendre à parler. Hein, on a des pédagogies qui sont centrées sur l'écrit. Lorsqu'on changera un peu ces pédagogies. Et si vous regardez, même s'il n'y a pas de fondement scientifique réel à cette dernière hypothèse, mais si vous regardez l'école des pays qui fonctionnent le mieux d'un point de vue démocratique, vous comprendrez immédiatement qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça, quelque chose d'important. Et regardez à l'inverse la manière dont fonctionne l'école dans les pays où la démocratie fonctionne moins bien. Hein, et vous comprendrez tout à fait de quoi je parle. Voilà. Merci.
Merci, Monsieur Blandiot. Une petite séance de questions. Je précise que Monsieur Blondiot, je crois, ne pourra pas être avec nous à la fin des interventions. Voilà. Donc, s'il y a des questions, voilà, je.
Il nous avons des micros. Si on n'a pas, on continue. Hein, c'est vraiment pas grave. Hein. Bon, ben, dans ces cas-là, soit l'exposé a complètement raté son effet, soit il était tellement clair qu'il n'appelle pas de discussion, soit il était hors sujet. Ça, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression qu'il
y a une question là-bas.
Bonjour, merci beaucoup. Non, c'était très, très clair. Donc, effectivement, C'est dans les pistes de solutions que vous soulevez. Est-ce qu'elles sont... Enfin, voilà, comment arriver à cette révolution culturelle et institutionnelle ? Parce qu'en fait, effectivement, c'est des pistes qui donnent envie, mais qui passeront pas...
Moi, je suis condamné, d'un certain point de vue, par ma position, à pratiquer le fameux adage, être pessimiste sur le réel et optimiste par la volonté. Je ne peux pas faire autrement que de me dire, alors même que tous les signes d'un effondrement de nos sociétés, de nos systèmes de solidarité sont là, j'essaie quand même d'apporter un certain motif d'espoir, de dire, mais on voit bien là, quand on regarde la campagne présidentielle, quand on regarde sur quoi portent les débats, quand on regarde le pouvoir de fascination et de séduction de ceux qui pensent la politique du pire, hein, et qui exaltent les passions tristes des citoyens. Je suis comme vous assez inquiet, plus qu'inquiet, sur d'un certain point de vue. Alors voilà, et donc du coup, qu'est-ce que je fais en vous disant ça, sinon couper les jambes, hein, c'est-à-dire que on a aussi, parce que c'est à ce point difficile de transformer les choses. Nous, on l'a vu pour la Convention citoyenne, on s'est quand même mobilisé de manière très intense, et les 150 citoyens l'ont fait au comité de gouvernance, tout ça pour ça, pour que finalement, alors je pense que ça n'est pas du tout perdu, cet investissement, il en restera quelque chose sur le fait que c'est possible, hein, que ça n'est pas l'incompétence des citoyens, leur indifférence qui explique les problèmes de l'époque, c'est un système politique qui n'a aucune envie de se transformer et qui, d'un certain point de vue, et c'est là où mon pessimisme atteint son paroxysme, c'est qu'effectivement, très vraisemblablement, se joue aujourd'hui quelque chose de très important, à savoir que... Je pèse mes mots, hein, et je ne parle pas évidemment de complot, c'est absolument pas ma tasse de thé, mais que ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir dans nos sociétés et qui sont ceux qui possèdent le capital, c'est vraiment la grille de lecture qui explique le mieux ce qui se passe, sont tentés d'encourager l'avènement d'une forme de fascisme, hein, qui ressemble beaucoup à ce qu'a été le fascisme historiquement. Parce que c'est le meilleur moyen, d'un certain point de vue, de contrôler les citoyens. Donc voilà, face à ça, quand on défend un idéal démocratique, quand on essaie de réparer cette démocratie, quand on essaie de défendre ce qu'il en reste, eh ben on se sent relativement impuissant.
Merci également pour cette mise en perspective, à la fois claire et stimulante. Je voulais, par rapport au thème effectivement de la journée d'aujourd'hui, effectivement, puisque vous n'aurez pas l'occasion effectivement de participer à la table ronde tout à l'heure, quel est le rôle en fait que vous identifiez pour les bibliothèques par rapport à cette mise en contexte vraiment qui était très intéressante? Est-ce que vous voyez une différence entre les bibliothèques universitaires, puisque vous avez beaucoup parlé des bibliothèques universitaires, et les bibliothèques de lecture publique, ces équipements de proximité qu'on évoquait tout à l'heure? Quel rôle on pourrait davantage jouer par rapport à cette
question ? Là, je suis désolé. C'est pour ça que j'interviens assez peu dans les médias, notamment. C'est que je ne suis pas un toutologue. C'est-à-dire que les bibliothèques, je les fréquente en tant qu'universitaire. Je sais que mes étudiants les fréquentent, mais j'en ai une réalité qui est vraiment très, très parcellaire. Donc, je ne sais pas ce qu'elles peuvent faire. Pour que je le sache, il faudrait que je participe à un projet, que je connaisse infiniment mieux. Mais là, je ne peux absolument pas me permettre de parler de quelque chose que je ne connais pas, sur lequel je n'ai pas travaillé. C'est une sorte de déontologie personnelle, et j'en suis désolé, hein. Donc du coup, ça valait peut-être pas la peine de m'inviter, mais c'est pour ça que je vais jamais dans les médias, c'est-à-dire où vous êtes constamment confronté à ça, c'est-à-dire à parler de quelque chose sur la... Moi, j'ai une définition de l'expert qui est quand même très, d'un certain point de vue, de l'intellectuel, spécifique, c'est-à-dire que je ne travaille, disait Foucault, je ne travaille que sur ce que je connais relativement bien.
Peut-être juste, enfin, rapidement, moi, c'est une remarque et pour répondre, pour vous dire que votre intervention pour moi était extrêmement pertinente. Quand on a préparé cette journée d'études avec Valérie et Julien, une des grandes questions justement des bibliothèques, et vous y avez enfin votre mise en perspective a été, je pense, d'un point de vue des bibliothécaires extrêmement utile, parce que une des questions qui se pose, c'est comment on fait quand on est une institution, parce qu'une bibliothèque publique c'est une institution, même si c'est une institution dans laquelle les personnes ont encore relativement confiance, ça reste une institution et on essaye de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Il y a le terme éducation, cette question de faire de la pédagogie, notamment vis-à-vis des publics adultes, ça pose question. Enfin, c'est dans quelle position on est et comment on fait pour réorganiser du débat en maintenant la confiance, en
Bien
étant
sûr.
Nous-mêmes alors, des experts de l'information d'une certaine manière, mais dans une position qui est comme vous, on n'est pas des toutologues. Et comment on fait pour organiser des débats sereins sur des sujets de société desquels on doit traiter. Et ce sens-là, j'ai l'impression que vraiment votre intervention était assez, enfin, en tout cas pour moi, a été extrêmement passionnante et extrêmement pertinente sur cette question-là.
Ce que vous dites est vraiment très, très important. Alors peut-être, et peut-être que je me trompe aussi, peut-être que vous faites partie du groupe de ceux qui m'apparaissent pour moi comme des maillons absolument indispensables au fonctionnement de ces démocraties, c'est les intermédiaires, comme peuvent l'être, par exemple, ceux qui travaillent dans les centres sociaux, comme peuvent l'être dans un autre ordre d'idées tous ceux qui interviennent comme des facilitateurs, comme des médiateurs, etc. Et ce que l'on sait d'un certain point de vue, c'est que leur action pour socialiser, quelquefois même pour mobiliser, pour impliquer, pour réveiller les citoyens de leur torpeur consumériste et médiatique, ça repose sur des conditions qui sont très, très précises. Ça repose sur du temps, ça repose sur une très grande proximité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens font confiance aujourd'hui à ceux qui, d'un certain point de vue, partagent leurs difficultés, leurs conditions de vie, etc. Pas forcément qu'ils soient semblables, mais pour avoir un titre et une légitimité à intervenir, il faut que vous ayez démontré que vous ne vivez pas dans un tout autre ordre d'idées. Et ce que je regarde comme tout autre, dans une toute autre réalité, ce que je regarde comme des expériences absolument efficaces en matière de participation citoyenne, des expériences que je connais bien. J'ai parlé d'ATD Quart Monde. ATD Quart Monde pratique l'humilité en permanence, les professionnels d'ATD Quart Monde. Ça fonctionne. Et donc, ça fonctionne. Mais ça fonctionne à des petites échelles. C'est-à-dire que du fait de l'affaiblissement de vos moyens, du fait du peu de temps que vous pouvez consacrer à ce type d'activité, vous ne pouvez toucher que des petits collectifs, des petits groupes. Il y a tous ceux qui, pour des raisons X ou Y, passent au travers de vos mailles. Et donc, du coup, l'effet de levier que vous pouvez produire, il peut être local, il peut être même très puissant à l'échelle locale. On voit, par exemple, des universités populaires. Moi, je suis amené régulièrement à intervenir dans des lieux d'éducation populaire. Ça fonctionne très bien. Ça prend, d'un certain point de vue. Il y a du monde. Il y a des gens qu'on ne verrait jamais dans d'autres contextes qui viennent. Mais c'est un problème de démographie d'un certain point de vue. Pendant ce temps-là, les centaines de milliers, de millions de messages et de stimuli qui viennent de la télévision, des réseaux sociaux, etc., contribuent à saper tous ceux auxquels vous croyez, tous ceux à quoi je crois, hein, à la possibilité de vivre ensemble, à la possibilité de respecter les uns et les autres. Voilà.
Merci.
Voilà. Bon.
Voilà. Merci.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt.
Merci, monsieur Blondiot.